et Yaya,
ni poule mouillée,
ni poule de luxe, les deux mères poules de Principe Actif.
Avec les mères poules, c'est trop cool!
Bonjour à tous.
Bonjour.
Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'alimentation. Un vaste programme, évidemment, qu'on va aborder de façon assez succincte, parce qu'on ne pourra pas parler de tout.
Ouais, on va...
Mais donc, on va commencer, évidemment, par l'alimentation des tout-petits, avec le biberon, tout ça, un petit historique et tout. On a essayé de vous concocter un bon petit repas. Voilà. Donc, eh bien, pour commencer, on va vous faire écouter une chanson des Vampas qui s'appelle « Les poissons ».
Et où Didier Vampas donne quelques conseils à 1 minute 24 ou 25 sur comment nourrir les bébés.
Voilà, donc il faut écouter attentivement
pour avoir les
paroles,
bons conseils
de la Didier. Chanson.
J'attends un bébé pour le mois de mai et je ne pense pas vouloir allaiter. J'ai l'impression que c'est se rajouter de la fatigue, voire du stress si ça ne se passe pas bien. Et c'est vraiment un rapport exclusif avec l'enfant où le père ne peut pas prendre le relais. C'est une charge en plus, bien que l'avantage de l'allaitement est que le lait soit gratuit. Mais bon, mon choix n'est pas entièrement figé, mais j'avoue que je ne visualise pas dans cette démarche. Et comme ça, on sera deux à se lever la nuit.
Donc voilà.
Voilà, est clair,
choix, voilà. Et c'est pas toujours facile parce que il y a quand même une pression importante pour allaiter les enfants quand même.
Oui. Ah ben il y a une pression importante et puis c'est vrai que il y a aussi je crois que chacun doit peser les avantages et les inconvénients de l'allaitement maternel en fonction de ce qu'il ressent, de son mode de vie aussi, mais il y a une espèce de pression parce que effectivement il y a le côté naturel de l'allaitement et il y a même des gens qui sont organisés en ligue pour l'allaitement la Beach League, je sais pas quoi, enfin, et qui font enfin qui font vraiment qui proposent d'aider dans la démarche de l'allaitement, même quand ça fonctionne pas très bien, parce que parfois pour des raisons diverses, ça peut ne pas très bien marcher.
Ça marche pas.
On arrive parfois à voir des femmes qui sont tellement obsédées par cette idée d'allaiter quand même qu'elles font des trucs hyper complexes pour arriver à poursuivre un allaitement fort laborieux qui doit énerver tout le monde. Et effectivement, dans ce cas-là, le fait d'avoir du lait naturel dans une ambiance un peu tendue, je ne suis pas sûre que ce soit l'idéal non plus.
Voilà, d'avoir des bébés stressés.
Voilà, donc tout ça, c'est... Mais en tout cas, une jeune femme qui est à contre-courant. Bon, et puis parfois, ça dépend des circonstances, du mode de vie. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en jeu dans le choix. Et puis parfois aussi l'aspect physiologique. En tout cas, on peut dire que l'alimentation des petits, ça, et les recommandations et les pratiques, ça n'a pas cessé de changer quand même.
Parce que par exemple, pour l'allaitement, à un moment, on disait aux mères qu'il fallait boire de la bière pour avoir des montées de lait, par exemple.
Oui. Alors, dans l'Antiquité, par exemple, le colostrum, on considérait que c'était le sang de l'utérus. Le colostrum, c'est ce qui s'écoule des seins vraiment juste après l'accouchement, quoi. Enfin, c'est le premier. Et on considérait que c'était mauvais pour l'enfant. Et donc, on faisait jeûner l'enfant ou alors on lui donnait direct quelques bouillies dans l'Antiquité. Et on pouvait continuer après l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, mais il fallait rajouter des trucs, un peu de vin dilué, un peu de croûte de pain, c'était voilà. Et alors que maintenant, on sait par exemple que le colostrum, c'est assez riche en fait en anticorps et tout
ça.
Donc c'est plutôt utile.
Conseillé. Quoi.
Voilà, donc maintenant, on conseille justement de mettre le bébé au sein tout de suite et non pas de le faire jeûner.
Pauvre petit, vivre le lit.
Et donc, c'est l'histoire de la bière pour aider l'allaitement. C'est vieux, les Sumériens, en 2000 avant Jésus-Christ, préconisaient déjà ça.
Ça date de vieux. Ça date pas d'hier.
Et ça perdure, quelquefois. Voilà. Alors, c'est quand même il y a une période où on s'est rendu compte que peut-être que les enfants se développaient mieux s'ils ne mangeaient pas de bouillie avant 6 mois. Voilà. Par exemple, en 1550, on a commencé à faire un tableau un petit peu d'alimentation pour les petits. On a commencé à faire un truc un peu théorisé. Alors bon, il y avait des trucs bizarres quand même. Donc on disait volaille émincée vers 15 mois, viande vers 2 ans. Aromatiser les bouillies, soit avec du jaune d'œuf, de la bière, du vin, de l'anis, des petites choses comme ça.
C'est pour fortifier, sûrement.
On a continué à tâtonner un peu au XXe siècle, quand même, faut bien le dire. On a quand même introduit l'huile de foie de morue. Alors, au début, moi, je connais un adulte qui est encore traumatisé par l'huile de foie de morue qu'il a dû boire quand il était petit. C'est sa grande sœur qui l'a sauvée, qui un jour a jeté la fiole,
bien. Non, moi, j'ai jamais eu ça.
Ce qu'on a connu, nous, enfin moi en tout cas, pour mon fils aîné, on conseillait dès vraiment les premiers jours d'introduire un peu de jus d'orange, des quelques gouttes de jus de fruits. Sauf que ça les faisait cracher tout le du lait caillé. Enfin bon, moi j'avais arrêté très rapidement. Maintenant, on dit qu'il ne faut plus le faire. Mais au moment de la naissance de mon fils aîné, ça se préconisait. On diversifie aussi très, très précocement avec des céréales. Maintenant, on dit beaucoup plus tard. Voilà, tout. Il y a eu la période aussi où on disait, faut attendre 6 mois, faut donner que du lait jusqu'à 6 mois pour limiter les allergies. Puis on s'est rendu compte que finalement, il valait mieux introduire les choses un peu diversifiées entre 4 et 6 mois, parce que justement, ça diminuerait les allergies.
Ça
n'arrête pas de changer. C'est un vrai problème.
Voilà, c'est toujours la difficulté des avis contraires. Un coup, c'est un coup, c'est ça. Et on ne sait plus où donner de la tête.
Exactement. En tout cas, en ce qui concerne l'allaitement maternel ou artificiel, avant, l'allaitement maternel pouvait durer très longtemps.
Oui, il y a des femmes...
jusqu'à 5 ans.
Voilà, c'est ça. Hein, qui,
Bon, ça se fait beaucoup moins, ça se fait encore. Mmh. Hein, il y a quelques militantes forcenées. Mais c'est en tout cas, dans nos pays européens, oui, c'est pour adapter.
Usité, quand même.
Et puis, c'est socialement, ça paraît peu étrange.
Ça passe pas tellement.
N'imagine pas trop le gamin de 4-5 ans arriver, soulever le t-shirt de sa mère. Enfin, voilà. Bon, enfin, ça se fait. Bon, voilà. On a commencé à faire du lait industriel, en fait, au moment de la révolution industrielle. C'est là qu'on a commencé.
Au 19e, quoi.
Ouais. On a commencé à... Il y a Justus von Liebig. Liebig. Oh. Il était... qui a cherché à trouver un substitut pour ses petits-enfants parce que leur mère ne devait pas pouvoir les allaiter. Mmh. Donc, il a travaillé sur la question. Voilà. Et puis, c'est Henri Nestlé qui a repris l'année suivante l'idée d'une farine lactée, etc., et qui a commercialisé. Et voilà.
Très bien.
C'est
très bien.
Quand même intéressant, non?
Oui, oui, très.
Voilà.
Et les biberons, t'avais pas une histoire sur les biberons Non?
Non.
Bon,
avant les mixeurs, si, ce qu'on peut dire, c'est qu'avant les mixeurs, comment on faisait soit on coupait en tout petit morceau, mm-hmm. soit on écrasait quand même comme on pouvait, mm-hmm. soit on faisait tremper, soit on mâchait.
Ah oui, on pré-mâchait.
La mère pré-mâchait et donnait. Mais bon, ça se fait encore un petit peu dans
certains pays. Les oiseaux font ça, non? Pour les
oiseaux. Oui, bah oui. Ça prédigérait en plus avec la salive. Mm-hmm. Voilà, on a des pipeaux aussi maintenant.
Ah bah oui, formidable, les pipeaux.
Hein. Et c'est apparu en quelle année, les pipeaux?
Ah bah ça, je ne sais pas.
1928.
Ah, quand même, c'est loin.
Bah, c'est Madame Gerbert qui faisait ses pipeaux pour ses enfants. Et puis du coup, son mari s'est emparé de l'idée. Dan Gerbert, agriculteur américain, a décidé de commercialiser des pipeaux. C'est Nestlé qui a racheté la marque en 2007.
Ah oui.
Voilà. Mais l'idée est venue d'une femme, d'une encore maman, une femme méconnue qui a eu une idée formidable.
Voilà, c'est ça, et c'est son mari qui s'est emparé
du truc, et c'est de lui dont on a parlé. Bon, voilà, donc après, en France, on avait les petits pots Jacquemer. Mais c'est vieux, ça, c'est très ancien, et après, c'est l'ancêtre de Blédina, quoi. Mmh. Et au début, les petits pots étaient en fer.
Ah ouais.
Ouais, c'était vendu dans les pharmacies uniquement et voilà. Mmh. Et puis après, ça a évolué. Quand on ouvre, ça doit faire pop,
ouais.
Et le petit pop, lui, il était, qui garantit la qualité du produit, ouais. Est apparu en 1974. Ah. Donc beaucoup plus tard. Et voilà. Et puis alors après, on a cessé de faire évoluer. Donc maintenant, il y a des petits pots bio, il y a des petits pots halal, il y a des petits pots qui peuvent passer au micro-ondes, des assiettes qui passent au micro-ondes. On fait même des assiettes où on sépare les aliments plutôt que de les mélanger.
Ah oui,
ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas.
Le progrès, c'est incroyable.
Ouais.
Parfois, c'est un peu trop, mais...
Parfois, oui. Alors, ce qu'on observe, ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que finalement, selon les pays, l'introduction des premiers aliments peut être très différente.
Mm-hmm. Par exemple... Au niveau de l'âge?
Oui.
Ou des aliments eux-mêmes?
Oui, de type d'aliments et de l'âge, par rapport au type d'aliments. Par exemple, les bébés indiens consomment très, très jeunes beaucoup d'amandes, de soja, etc.
Pas d'épices, quand même.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais amandes et tout ça, c'est 91% des enfants indiens de 6 mois en consomment.
Ah ouais.
Voilà. Et par contre, les enfants consomment très peu de viande en Inde. C'est quand même un pays où le régime est quand même très végétarien. 30% des habitants à peu près, c'est des statistiques, mmh. mais 30% des habitants sont végétariens. Mmh. Et du coup... il y a seulement 11% des enfants de 12 mois qui consomment un peu de viande. Ouais. Donc voilà, selon les pays, ça peut être très différent. Est-ce que c'est mieux ou moins bien? Est-ce qu'on va mieux ou moins bien?
Oui. Il n'y a pas plus de carences dans un pays que dans l'autre par rapport à...
Bah, on en a un peu, mais c'est plus parce qu'il n'y a pas assez d'aliments. Enfin, il y a des gens très pauvres.
Voilà,
quoi,
c'est
mais...
ça, mais c'est pas lié à, la, à ce qu'ils mangent. Quoi.
Non, non, non. Au Mali, les adultes laissent les enfants se nourrir comme ils veulent, par exemple, souvent. Enfin, dans la plupart des familles.
Donc, ils mangent des criquets,
des souris mortes. Non, mais ils peuvent choisir ce qu'ils mangent, la quantité, machin. Alors que nous, on a tendance quand même à plus formater. Enfin,
oui, c'est un peu... on est à table, voilà. On a telle quantité, il faut que on finisse ton assiette. Hein.
Ouais. Alors maintenant, c'est peut-être moins quand même, maintenant, l'histoire de finir l'assiette, mais... Oui, il y a eu cette période-là où il ne fallait rien gâcher.
Hein. Bah oui, oui.
Bon, voilà. Donc, l'alimentation, ça peut être très, très différent selon les habitudes des uns et des autres. Mais c'est intéressant de voir à quel point les choses ont pu varier dans le temps. Oui.
Bon, bah, parfait, alors. Eh bien, on se retrouvera bientôt dans la prochaine émission où on continuera à vous parler un peu de l'alimentation des enfants.
Super.
Vous êtes comme une poule qui a trouvé un couteau en entendant ou en lisant les conseils éducatifs, parfois contradictoires des spécialistes?
Eh bien, adressez-nous vos interrogations ou vos réflexions sur le site de Principes Actifs en précisant l'émission Les Mères Poules.
Nous en débattrons lors d'une prochaine émission.